Parole. Le podcast d'Entretien d'Outre-mer la première, présenté par Cécile Baquet.
Raphaël Confiant, vous êtes l'auteur d'une soixantaine de romans et d'essais, à commencer en français par Le Nègre et l'Amiral chez Grasset, jusqu'au bal de la rue Blomé au Mercure de France qui vient de sortir. Comment travaillez-vous, Raphaël Confiant ? Est-ce que vous avez des habitudes d'écrivain ?
J'écris de manière très anarchique, c'est-à-dire déjà je ne peux pas écrire un seul livre à la fois, c'est pas possible. Donc je commence plusieurs livres, j'ai toujours... Alors les gens me demandent, mais comment tu fais? Tu as beaucoup de livres qui sortent. Je dis oui, mais c'est parce que je ne me consacre jamais. Je suis toujours en train d'écrire 2, 3, 4 livres. Et forcément, il y en a un qui se termine, l'autre. Mais quand l'autre s'est terminé, je commence à dire... Pourquoi? Parce que je m'ennuie très vite. C'est le lecteur ne le sait pas, il a l'impression que je suis entièrement consacré. Non, je suis assez anarchique dans ma manière d'écrire. Je n'écris pas très longtemps non plus, peut-être 1 heure par jour.
Et vous êtes efficace, hein ?
Ben oui, 1 heure par jour, alors rarement 2 heures. Donc bon, alors j'écris trop, hein, parce que souvent mes livres sont coupés par les éditeurs, ils ont bien raison, ils coupent 50 pages, 100 pages, ils me disent bon ça, il faut quand même enlever. Et bon, c'est anarchique comme manière d'écrire, c'est...
En 2007, vous publiez 2 livres avec Louis Boutrin, qui est avocat en Martinique et politique, qui parle du chlordécone, ce pesticide très toxique utilisé en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre le charançon dans les bananeraies et qui a durablement pollué les sols, sans compter les conséquences sanitaires. Quand et comment avez-vous eu vent de ce scandale ?
Eh bien, j'appartiens à un petit parti écologiste. Ça s'appelle Martinique Écologie.
Ah oui, dont vous êtes le vice-président.
Voilà. Et donc, nous sommes très sensibles aux questions écologiques. Mais cette question des pesticides avait été posée dès les années 70 par les ouvriers agricoles. Parce qu'on utilisait ce fameux chlordécone pour lutter contre une espèce d'insecte qui attaque les bananes, qui s'appelle le charançon du bananier. Et ce produit avait été créé aux États-Unis pour lutter contre... une petite bête pareille qui attaquait les plantations de tabac. 79. Et 2 ans après, les Américains ont dit stop, on arrête. Pourquoi ? Parce que l'usine qui la fabriquait, il y a eu une explosion, le liquide est tombé dans un fleuve à côté. Et l'année d'après, tous les bébés crocodiles étaient des femelles. Et quand on a examiné, on a vu que c'était cancérigène, que les ouvriers qui avaient travaillé là, ils étaient malades, etc. Donc les Américains arrêtent d'utiliser ce produit en 79. Chez nous, on l'utilise jusqu'en 2002. C'est quand même criminel, quoi. Puisque on sait que c'est dangereux. Mais les planteurs de bananes, eux, ils ont besoin de bénéficier de subventions de Bruxelles, de toutes ces choses qui sont quand même très importantes.
Mais comment vous avez eu vent de cette affaire ?
Ben, on a eu vent de cette affaire par les ouvriers agricoles. Je vous dis qu'ils, depuis 1974, luttent. Mais comme c'est des ouvriers agricoles, les gens n'ont pas trop pris conscience de cela. Mais c'est quelque chose qui est dénoncé. Comme nous sommes des écologistes, dans mon parti, nous avons enquêté, hein, nous avons fait des enquêtes.
Et ils avaient des problèmes de santé, ces ouvriers agricoles ?
Ah oui. La Martinique détient le record mondial du cancer de la prostate. Alors les autorités ont dit, oh non, c'est un cancer qui est propre aux Noirs. Alors, ils ont inventé toutes sortes de choses pour essayer de tourner en bourrique, mais on a dû écrire ces 2 livres. Nous avons fait une conférence à l'Assemblée nationale. Et le jour de la conférence, tenez-vous bien, toute la presse était venue, hein, Le Monde et tout ça. Et d'ailleurs, la semaine d'après, le nouvel obstétricien, les Antilles empoisonnées en une. À notre table, il n'y avait que 2 députés, Alain Lipietz et Corinne Lepage. Aucun député entier.
Et vous, Raphaël Confiant, vous vous sentez plus militant ou écrivain ?
Ni l'un ni l'autre. Pourquoi je dis ça ? C'est pas par coquetterie. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je deviendrais écrivain. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait Sciences Po. Bon, Sciences Po, ça ne vous mène pas à être écrivain, quoi. Comment je suis devenu écrivain ? Je ne sais même pas. Alors, j'ai toujours lu. J'ai lu depuis ma tendre enfance, etc.
Et vous avez toujours écrit ?
Non. J'ai commencé à écrire après mes études. mais sans même l'idée de publier un jour. En fait, sans doute qu'il y avait des choses qui maturaient à mon insu, bien sûr, c'est comme ça que les choses se passent. La chance que j'ai, c'est que je peux écrire assez rapidement. Et militant, bon, j'ai été membre de différents partis politiques, mais jamais à des postes de responsabilité. Ça ne m'a jamais intéressé de devenir un élu, trop de contraintes, surtout des contraintes formelles.
Dans votre parcours de romancier, vous avez sorti de l'oubli pas mal de personnages au parcours incroyable. Je pense à Stéphanie Sinclair, cette Martiniquaise née à la fin du 19e siècle, devenue chef de gang à Harlem. Comment avez-vous découvert cette histoire et comment vous êtes-vous documenté?
Mais souvent, les sujets me viennent de manière tout à fait impromptue. Un jour, je suis dans l'île de Barbade et quelqu'un, un intellectuel, me dit « Mais est-ce que tu sais que c'est ici que la fille de Victor Hugo a atterri ?» Je dis « Ah bon ?» Il me raconte tout le parcours, qu'elle était partie au Canada, amoureuse d'un Anglais, et que l'Anglais avait été nommé officier à Barbade, parce que Barbade appartenait à l'Angleterre, et que là, elle avait été recueillie par une pacotilleuse, c'est-à-dire une femme qui vend toutes sortes de produits artisanaux. Et cette femme l'avait ramenée à Victor Hugo en France. Et donc, je décide d'écrire Adèle et la pacotilleuse. Pour Stéphanie Sinclair, c'est un ami qui m'envoie un mail en anglais, enfin avec un article en anglais, me dit « Regarde, une Martiniquaise figure dans le grand livre des gangsters noirs américains. » Alors, je dis ça. Je dis « Pfff, c'est déconné, ça. » Je mets ça de côté. Peut-être 2 mois après, je dis « Tiens, mais je vais quand même regarder cette Martiniquaise qui est devenue chef de gang à Harlem. » Et je m'aperçois que c'est vrai. Alors, je commande des livres sur elle. Je m'aperçois, oui, qu'elle est connue. Il y a même certains films noirs américains où elle a connu Lucky Luciano, elle a connu Al Capone. Enfin, c'est un truc assez invraisemblable, quoi. Et je m'intéresse à elle, je fouille et j'écris l'histoire. Donc, souvent, c'est ça, c'est ce que j'aime dans l'écriture. Les sujets me sont fournis par hasard. Le bal Blomet, c'est parce qu'un jour, je vois sur Internet, le bal Blomet est sauvé. C'était en 2015 ou 2017, je ne me rappelle plus. Il va être racheté et il va être... Tu dis, ah bon? Mais je connaissais le bal Blomet, vaguement. Mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé par pur hasard. Parce que j'ai vu qu'il allait être repris, etc. et tout.
L'autre héroïne créole que vous avez sortie de l'oubli en 2021, c'est Jeanne Duval, la muse de Baudelaire, dont on ne sait pas si elle est originaire d'Haïti, de La Réunion ou de l'île Maurice. Mais vous, ce que vous avez révélé, c'est le poids qu'elle a eu dans l'œuvre du célèbre poète. Est-ce qu'elle vous a habité, cette histoire de muse de Baudelaire, Raphaël Confiant?
Oui, parce que je me disais qu'au terme de mes recherches, je finirais par comprendre. Non pas quelle est son origine, hein. Parce que de son origine, on ne sait pas si elle est haïtienne ou réunionnaise. Mais comment elle a pu jouer ce rôle à une époque où l'esclavage n'était pas aboli? L'esclavage était aboli en 1848. Or, elle vit avant, dans la première moitié du 19e. Et elle est dans le tout Paris, elle fréquente tous les grands peintres, elle est la maîtresse de Baudelaire, 15 ans quand même. Hein, et elle arrive à s'imposer, Baudelaire lui dédie quand même pas mal de poèmes. C'est une espèce d'amour fou qu'il a pour elle. J'ai dû quand même y mettre beaucoup d'imagination parce que les documents sont quand même assez rares, c'est controversé. Ce qui n'est pas controversé, ce sont les poèmes qu'elle lui a dédiés. Chaque fois qu'il parle d'elle, hein, dans des lettres à sa famille, etc. Sa famille ne voulait pas qu'il soit avec elle. Il l'appelait la sorcière, d'abandonner cette sorcière. Et comment une femme, à une époque misogyne, raciste, puisque l'esclavage n'est pas aboli. En tant que femme, et en tant que femme mulâtresse, elle arrive à s'imposer auprès du plus grand poète de l'époque. C'est quand même extraordinaire.
Il est temps, Raphaël Confiant, de nous intéresser à votre dernier roman consacré au bal Blomet, une institution à Paris qui a vécu ses belles années entre les deux guerres. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce bal Blomet?
Mais ce qui m'a séduit, c'est cette espèce de microcosme dans lequel on peut cohabiter deux populations entièrement différentes. Parce qu'au départ, ce petit dancing, guinguette, quoi, enfin, il était réservé aux ouvriers antillais, des usines du Quai Javel, Peugeot, Renault, etc., aux servantes antillaises, aux grooms qui travaillaient dans les hôtels. Et puis, il s'est transformé miraculeusement en un lieu apprécié du tout Paris, tous les grands arts, et même d'Europe et des États-Unis. Donc, dans ce petit lieu cohabitait une population d'ouvriers noirs Et puis le Tout Paris, ou alors des étrangers célèbres. Donc je me suis dit, mais comment est-ce possible que des gens si différents culturellement, enfin à tous les niveaux, quoi, socialement et tout, aient pu, pendant si longtemps, c'est pas un an, deux ans quand même, ils aient pu cohabiter. Et je crois que c'est le miracle de la biguine, cette musique qui est née à Saint-Pierre de la Martinique et qui est la fusion de rythmes africains et européens. Donc c'est une musique entièrement nouvelle parce qu'elle mélange les rythmes de ces deux continents. Et elle a failli disparaître avec l'éruption de la montagne Pelée. Puisque en 1902, le volcan Pelée a explosé et a tué les 30 000 habitants. Rasé carrément. Hein.
Saint-Pierre, oui.
Les gens qui jouaient de la musique là-bas, ben, cette musique, elle a failli mourir. Mais heureusement, tous les habitants n'étaient pas présents le jour de l'éruption. Et ils ont transporté cette musique sur Paris. Ils l'ont emmenée dans ce petit... Au départ, il n'y avait que des Antillais.
Et qui a créé le bal blomé?
Alors, c'est très étrange. C'est un blanc martiniquais, un blanc créole, un béquet. Jean Rézard de Vouve. Alors, nos béquets ont souvent des noms graniers de Cassagnac. Ils ont des noms nobles, là. Et avec des particules. Il vivait à Paris. Il a voulu se présenter aux élections législatives.
On était en 1924.
Voilà. Et il s'est dit... Je pourrais avoir des électeurs parmi les Antillais, parce que je suis Antillais moi-même. Donc, il a loué ce petit local. C'était un bar tabac, à l'époque tenu par un Auvergnat. Il a dit, écoutez, je vais quand même faire des petits meetings électoraux dans votre truc, là, à destination des Antillais. Et comme il n'était pas très bon orateur, mais bon pianiste, ses harangues politiques n'avaient pas grand succès, mais à la fin, il se mettait au piano, et je dis, wow, mais il joue bien au piano. Et c'est petit à petit que ça s'est transformé, ces harangues politiques, en dancing. Jusqu'à ce qu'arrivent deux musiciens de génie de la Martinique, Stélio et Léardé. Et à partir de ce moment-là, la biguine explose. Et ce petit lieu devient quelque chose qui rivalise quasiment avec les Folies Bergères et le Moulin Rouge à l'époque, qui étaient quand même des établissements énormes. Quoi. C'est pas un petit boui-boui, quoi. Et ça m'a passionné parce que je me suis dit, mais c'est pas crédible, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas tous les documents qui attestaient de cette chose, parce qu'à un moment, c'était tellement achalandé que l'établissement avait établi des heures où les quarts de touristes pouvaient venir, les quarts de touristes étrangers. C'est-à-dire que la soirée, elle commence à 18h, oui, mais de 20h à 21h, les cars peuvent venir, les touristes allaient, ils se tirent, les gens dansent, et machin, et à 22h, un autre car. C'est montré comment ça avait un succès extraordinaire. Mais je crois, Joséphine Baker, c'est là qu'elle a fait ses premières armes, quand même. Hein.
Donc, dans le roman, vous évoquez aussi Robert Desnos, le poète, qui est vraiment à l'origine un peu de la popularité dans les classes un peu artistes, intellectuelles, de ce bal blomé.
C'est lui qui a écrit un article pour dire qu'à quelques pas de chez lui, parce qu'il habitait la rue Blomet aussi, il y a un bal oriental. Alors, c'est marrant. qu'il appelle ça un bal oriental, où il y a une musique extraordinaire. Et à partir de l'article de Desnos, les gens ont commencé petit à petit à venir. Et au bout d'un moment, le Tout Paris, Kiki de Montparnasse, Mistinguette, enfin tous les gens qu'on connaît des années folles, quoi, ont commencé à fréquenter l'endroit. Et à tel point qu'à un moment, les Antillais sont devenus minoritaires au bal blomé. À part les musiciens, parce qu'ils étaient quand même un peu gênés d'aller dans un endroit où il y avait ces gens si prestigieux, eux qui étaient ouvriers d'usine ou servantes. Mais enfin, il y a eu quand même cette cohabitation qui est étonnante et qui m'a fasciné. Quoi.
Et alors, ces personnages que vous avez imaginés, alors il y a un étudiant, le Sorbonnard, comme vous l'appelez, il y a un ouvrier, il y a un gigolo, Ticoc, il y a une servante. Est-ce qu'ils étaient documentés, ces personnages, ou vous les avez complètement imaginés?
Alors moi, mes romans ont toujours une toile de fond historique, et ma technique est la suivante. Les personnages historiques ou attestés sont toujours secondaires. Les personnages principaux de mes romans sont imaginaires, mais ils sont plausibles. Donc les personnages que vous avez cités, ce sont des créations, mais à partir d'éléments plausibles. Quoi. Desnos, le prince de Galles qui visite le bal blomé, oui, il a existé, quoi, mais les personnages secondaires. Et j'ai voulu montrer différents aspects de... D'abord la femme antillaise, hein, et à travers Élise, la servante, l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale, à travers Anténor quand même, et puis un petit bourgeois de la classe mulâtre, de la classe métisse, dont le père est un avocat réputé et qui étudie à la Sorbonne. Donc j'ai voulu un peu montrer les différentes classes sociales. Mais c'est des gens, c'est des personnages plausibles parce que ils représentent chacun un aspect de la société antillaise. Mais ils sont au premier plan.
Et alors aussi, il y a le personnage de Stelio, vous lui donnez un mauvais caractère. Ça, c'est attesté. Il avait six mauvais caractères, ce clarinettiste qui était vraiment une star à l'époque du bal Blomet.
Oui. C'est-à-dire qu'il était un peu irritable, d'après les documents que j'ai vus, que j'ai eu en main. C'était quelqu'un qui était irritable, mais peut-être que le succès lui était monté à la tête aussi, parce que bon, c'était quand même assez extraordinaire de voir que ils ont débarqué sans rien de la Martinique, c'était des immigrés pauvres quoi.
Donc lui il était irritable et Ernest Léardet lui il était homme à femme un peu.
Oui voilà, pas qu'un peu. Sa dernière femme est d'ailleurs toujours vivante, parce que c'était un monsieur qui changer de femme et qui finalement a réussi à se stabiliser avec celle qui...
Sur quoi travaillez-vous en ce moment, Raphaël Confiant ? Est-ce que vous avez un projet de roman ou deux sous le coude ?
Ben oui, à la fin du mois, chez un éditeur antillais, qui s'appelle Caraïbe Édition, je vais sortir la biographie imaginée, et pas imaginaire, imaginée, du plus grand sorcier de la Martinique, qui s'appelait Grands Ongles. Pourquoi ? Parce qu'il avait laissé pousser son ongle de cette... Et quand il marchait dans la rue, il marchait avec l'ongle comme ça, et les gens changeaient de trottoir. Et ce type, il a vraiment existé. Il avait la capacité, disait-on, de... Lui-même le disait, de tuer à distance. Et le jour où il s'est suicidé, il a laissé une lettre que je reproduis à la fin de l'ouvrage. C'est en 1965, il s'est suicidé en disant « Voilà, je m'en veux d'avoir tué 402 personnes, etc. » Enfin, il fait tout un...
Ah oui, c'est quand même un...
Et il s'est suicidé avec 7 cravates de 7 couleurs différentes et de 7 tissus différents. Et c'est documenté, c'est dans la presse et tout. Mais quand le livre a été terminé, c'était le Covid, j'avais pas les moyens d'enquêter vraiment comme je fais d'habitude. Et dernièrement, j'ai entendu un truc extraordinaire. Je me suis dit, zut, si j'avais entendu ça, j'aurais commencé le roman par ça. Ce sorcier marche dans la rue et tout le monde s'écarte parce qu'il avance. Et il y a un enfant qui vient et dit, « J'ai pas peur de toi !» Et lui, il fait tac. Et l'enfant perd la parole. C'est terrible, c'est magnifique. Et l'enfant n'a jamais plus retrouvé la parole. Alors la mère, elle a commencé à crier tous les jours, « Ouais, rends la parole à mon fils, etc. » Et lui, il passait... Parce que l'enfant l'avait défié. Mais c'est magnifique. Si j'avais su ça, j'aurais commencé. Alors, c'est pas un roman. C'est quelque chose que j'appelle une biographie imaginée. Je l'avais fait pour France Fanon. J'ai le même éditeur, d'ailleurs, Caraïbe Édition. Qu'est-ce que j'appelle une biographie imaginée? Je me mets à la place de la personne, du personnage. J'essaie d'entrer dans son intériorité.
Ah, donc vous vous êtes mis dans la peau de Grands Ongles.
Oui, comme de Fanon et comme ça. Mais j'essaie d'inventer le moins possible. C'est-à-dire que tous les éléments que j'attribue au personnage sont attestés, en tout cas par des documents, par des choses, sauf les dialogues, parce que bien sûr, s'il parle à quelqu'un, il n'y a pas... Et sauf les descriptions des lieux où la personne vit. Mais je le fais, je parle au « je ». Alors, de temps en temps, j'alterne, je parle au « il » aussi, pour prendre un peu une distance. Donc, j'ai appelé ça « biographie imaginée ». Donc, ça va s'appeler « Grands Ongles, le maître de l'invisible ».
C'est le moment de se quitter. Raphaël Confiant, avec quelle chanson souhaitez-vous que l'on se dise au revoir et pour quelle raison ?
Ben c'est une chanson, c'est une biguine. Je laisse les auditeurs l'entendre, mais c'est une biguine qui vraiment reflète l'atmosphère du bal Blomet dans les années 30. Donc je préfère qu'on l'écoute. Les notes que vous allez entendre valent bien mieux que des mots.
Merci beaucoup Raphaël Confiant, merci à Mercure de France de nous avoir accueillis. À la prise de son aujourd'hui, c'était Bruno Dessomme. Chers auditeurs de Ma Parole, je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Au revoir Raphaël Confiant.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Moi, mon Dieu, Seigneur, faut il aller passer. Ils ont sonné, moi, pas qu'à voir. Moi, mon Dieu, Seigneur, faut il aller passer. passer. Oui, pour ça, moi pas plaili encore. Quand moi t'ai décidé, peut-être on va déparer. Oui, pour ça, moi pas plaili encore. Tu dis, je sens la pointe qui te console et moi. Thank you.